nzamba
nzambira samirana
Nous sommes jeudi 6 janvier 2022, vous suivez la radio Nzambarate Kakawe. C'est le moment du journal, tout d'abord les titres. Des militaires de Gitaza en province Rumonge brutalisent les habitants en leur faisant porter de lourds fardeaux. Les habitants s'insurgent contre ce comportement. Depuis 3 semaines, la pandémie de Covid-19 connaît une flambée sans précédent dans le pays. Près de 1500 cas ont été détectés en 2 jours, selon le dernier rapport du ministère de la Santé. Et puis, des arrestations nocturnes sont opérées dans le camp de réfugiés burundais de Nduta en Tanzanie. Les réfugiés alertent sur l'ampleur de ces arrestations qu'ils qualifient d'arbitraires. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Mais tout d'abord, c'est bref sur l'insécurité qui nous amène d'abord à Lusaka en Zambie, où un Burundais a été tué, un autre grièvement blessé dans une attaque d'hommes armés dans la nuit de ce mercredi vers 22h, selon des Burundais vivant dans la capitale zambienne. Ces Burundais, tous originaires de la commune Vugizo, en province de Makamba, ont été attaqués dans leur boutique par des hommes non encore identifiés. Toujours à propos de l'insécurité, un corps sans vie d'un homme a été découvert mardi sur la sous-colline Mushwabure, colline Ruvuga de la commune Mavanda, en province Makamba. Selon des témoins qui ont vu le corps, il aurait été tué et égorgé par des inconnus. La victime n'a pas été identifiée. Les autorités administratives et policières se sont rendues sur le lieu du drame. Ils ont fait acheminer le corps à la morgue d'un des centres de santé de Mavanda avant de procéder à son inhumation mercredi. Et puis, découverte d'un nourrisson jeté dans un champ du quartier d'Imatongué au chef-lieu de la province Makamba. 2 personnes ont par la suite été arrêtées pour raison d'enquête. Il s'agit d'un pasteur de l'église Pentecôte de Nyaburumba à Makamba et une fille fidèle de cette église. La fille serait la mère de l'enfant. Jean-Marie Ndabashinze.
Selon une source au sein des fidèles de l'église Pentecôte de Nyaburumba, les 2 personnes ont été arrêtées après une opération chirurgicale qui a eu lieu dimanche dernier d'une jeune fille. Celle-ci était malade et vivait dans la chapelle de cette église depuis bientôt 3 ans et demi. Cette fille du quartier Swahili au chef-lieu de la province Makamba indique que cette opération a été faite par un ange envoyé par Dieu, une déclaration qui paraît fausse selon les officiers de la police judiciaire. La fille arrêtée était une garde malade de cette fille qui vivait dans la chapelle pendant plus de 3 ans. Elle a expliqué qu'elle est sortie pour lui apporter à manger et a trouvé la porte fermée. Celle-ci et les fidèles de cette église affirment que pendant cette période, un ange de Dieu était en train de faire l'opération chirurgicale à cette malade comme Dieu l'avait promis depuis 3 ans. Des déclarations que la police qui a procédé à l'arrestation qualifie de fausses. Les éléments de la police et de l'administration avaient fait une descente à l'église dans l'après-midi de ce mardi. La découverte d'un nouveau-né abandonné au quartier de Matongue du chef-lieu de la province Makamba a poussé la police de repenser sur les révélations de la garde malade sur une opération divine. Les autorités administratives, policières et sanitaires sont reparties à l'église pour établir le lien entre le nouveau-né trouvé abandonné et le miracle effectué lors de cette opération chirurgicale divine. C'est par là que le pasteur de cette église et une fille ont été arrêtés et la malade conduite à l'hôpital Makamba pour subir une expertise médicale. Des sources à l'hôpital Makamba affirment que cette fille présente des signes d'un accouchement et de renchérir que la santé du nouveau-né est bonne. Le personnel soignant et le médecin font le suivi de la santé de l'enfant ainsi que celle de la fille malade qui dit être soignée par les anges envoyés par Dieu. Les personnes arrêtées sont gardées au cachot du commissariat communal de police à Makamba pour enquête. La rédaction de la radio Nzamba, Agathe Kakawe, a tenté de joindre par téléphone Françoise Ngozirazana, gouverneure de Makamba, mais cette dernière s'est réservée de tout commentaire sur les faits.
Merci Jean-Marie Ndabashinze. Les habitants de la zone Gitaza, dans la commune Mouta, en province Lomongue, disent être maltraités par des militaires qui y sont basés. Ils affirment que ces militaires leur font faire des travaux forcés en les obligeant de transporter de gros sacs de nourriture vers une position militaire située sur la colline Mubanga. Ils demandent que cela cesse. C'est un reportage de Benny Axelakana.
Les sources en provenance de la zone Gitaza nous disent que les habitants qui se lamentent sont en majorité ceux habitant sur les collines de Nyabgayi, Mubanga, Nyangushwe, Kibingo et Kinyobu, tous de la même zone de Gitaza. Ces habitants nous informent que les militaires les obligent à transporter des sacs de riz, des sacs de haricots et beaucoup de bidons d'huile de palme. Ils précisent bien qu'avec la mise en place d'une nouvelle position militaire sur la colline de Mubanga, les militaires ont commencé à les malmener, les obligeant à faire ce travail qu'ils qualifient de corvée. Nos sources nous disent aussi que cela se passe les jours des marchés, le mercredi et le vendredi. Les gens sont pris sur le chemin de retour du marché en rentrant chez eux à la maison, à un endroit où ces militaires les attendent, tout près de la rivière Nyamusenyi, connue sous le nom de Kugihomoka. Et là, ces gens sont sommés de transporter ces sacs lourds jusqu'à destination à la position militaire de Mubanga. Ces habitants disent que non seulement le travail qu'ils sont appelés à faire demande beaucoup de force qu'ils n'ont pas, mais aussi qu'il se fait sur un trajet long, précisant qu'au moins 10 km séparent Gitaza et la position militaire. Ils déplorent les travaux forcés d'un autre âge et demandent aux instances habilitées de faire cesser les agissements du genre. L'administrateur de la commune Mouhuta, Domitil Mounzwenimana, contacté sur la question, a dit qu'il n'en est pas au courant. Nous avons cherché le porte-parole de l'armée, Floribert Avillé-Leke, pour avoir sa réaction, mais sans succès.
Akat Burundi alerte sur le manque criant de vivres destinés aux prisonniers dans plusieurs établissements pénitentiaires du pays. C'est particulièrement la farine qui fait défaut, et cela depuis plus de 3 mois. À titre d'exemple, dans la prison d'Ongozi, sur les 31 jours du mois dernier, les prisonniers ont reçu une ration complète pendant 10 jours seulement. Face à ce problème de rupture de stock, Akat Burundi demande aux autorités du pays de prendre au sérieux cette situation qui viole les droits de ses détenus. Suivez Maître Jean-Claude Nivoulou-Monsi, il est chargé du département juridique au sein d'Akat Burundi.
Vous savez déjà que les prisonniers normalement sont nourris de la farine du manioc et du haricot, mais nous constatons que la farine du manioc, qui est la principale alimentation dans les prisons, a connu un manque criant depuis plusieurs semaines et plusieurs mois d'ailleurs, et les prisonniers passent des jours sans qu'ils soient nourris de leur ration quotidienne qui est prescrite par la loi, mais qui est aussi jusqu'ici insuffisante. À titre illustratif, dans la prison d'Ongozi, sur tout le mois de décembre, les prisonniers ont été servis la farine que 10 jours. Les autres jours, ils ne bénéficient que du haricot seulement. Nous le constatons aussi dans les prisons de Rumonge, Muranza, Ruigi, Bubanza, Ibururi et d'autres. Ils connaissent toujours le même problème. La mesure de suspension des visites prise par la Direction générale des affaires pénitentiaires dans le but d'éviter la propagation du coronavirus et l'interdiction de communiquer à l'extérieur par téléphone complique la situation, étant donné que les détenus ne sont plus en contact avec leurs proches pour qu'ils leur viennent en aide. Nous rappelons qu'en temps normal, la ration journalière reconnaît à chaque prisonnier de 350 grammes de haricots et 350 grammes de farine par jour. Nous, à la CAT Burundi, nous demandons au gouvernement de prendre cette question au sérieux et d'éviter qu'il y ait un épuisement des stocks. Mais croyons que ce n'est pas lié au manque d'argent pour l'achat des vivres, mais c'est peut-être par négligence que ces stocks soient épuisés ou le fait que les gens veulent faire des contournements pour avoir des marchés publics sans passer par la loi, sans prendre la chose au sérieux.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour 3 raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakao.
Le gouvernement rapporte une moyenne de 570 nouveaux cas détectés dans la population par jour depuis le 13 décembre, date de début de la forte flambée en cours dans la seule période des 2 et 3 janvier 2022. 1475 nouveaux cas ont été détectés selon le dernier rapport du ministère de la Santé qui montre que le taux de contamination monte en flèche. Trifine Kaniwabo nous livre les détails.
Ce rapport qui montre le degré de contamination de la COVID-19 dans la période du 2 au 3 janvier 2022, parmi les 1475 personnes qui ont été testées positives, on dénombre 1339 cas de transmission communautaire et 136 cas importés. Parmi eux, 107 ont été dénombrés au point d'entrée avec la République démocratique du Congo, 6 au point d'entrée avec la Tanzanie, alors que 23 cas ont été enregistrés à l'aéroport de Bujumbura. Ces chiffres records enregistrés par le Burundi, selon ce rapport, traduit la circulation active du coronavirus dans la population générale. Le même rapport montre qu'au cours des 3 dernières semaines, la hausse moyenne des cas est de 2055% par rapport aux 3 semaines précédentes. Au cours des 2 dernières semaines, on dénombre au total 2272 nouveaux cas communautaires, dont plus de 21% détectés dans la ville de Bujumbura. Tous les 48 districts du Burundi ont enregistré au moins un cas de COVID-19 au cours de ces derniers 14 jours. Le taux de positivité parmi les tests rapportés 2 et 3 janvier est de plus de 2%. Parmi les grands défis conclus, le rapport figure la communication des risques, l'engagement communautaire et l'augmentation du taux de couverture pour faire face à la pandémie de la COVID-19.
Grogne des éleveurs du gros et du petit bétail dans les provinces Makamba et Rutana. Les éleveurs accusent les administratifs à la base de les rançonner sous prétexte de la nouvelle politique de stabulation permanente initiée par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Les administratifs leur demandent de l'argent sans délivrer de quittance, même lorsque ces éleveurs gardent leurs troupeaux dans leur propre propriété, comme l'a pourtant exigé le ministère de tutelle. La plupart des éleveurs ont alors dû vendre leur bétail, d'autres ont préféré fuir le pays avec leurs troupeaux vers la Tanzanie. Le point avec Parfait Mudasigana.
Selon ces éleveurs, certains administratifs à la base leur demandaient de l'argent sans quittance, même s'ils font pâturer leurs troupeaux dans leur propre propriété, comme l'a exigé le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage avec sa nouvelle politique de stabulation permanente. La plupart des éleveurs ont vendu leur bétail, d'autres ont préféré les faire fuir vers la Tanzanie.
Les autorités du pays devraient légaliser cette nouvelle loi sur la stabulation permanente aux administratives à la base. On ne peut pas garder nos bétails dans nos maisons, c'est impossible. Et cette soi-disant amende, où va-t-elle? On ne nous donne jamais de quittance.
Ces lamentations s'observent aussi du côté des consommateurs de la viande, du gros et du petit bétail. Le prix de la viande a sensiblement augmenté et la seule viande trouvable est celle du porc.
32 vaches ont été déplacées vers la Tanzanie dans des collines comme Kagunga. Comme conséquence, la viande du bœuf est devenue d'arrêt rare sur le marché. La viande disponible aujourd'hui est celle du porc. Au marché de Mabanda où on s'approvisionne souvent en viande de bœuf, un kilo s'achète presque 8000 francs burundais.
Ces éleveurs demandent au gouvernement d'arrêter les administratifs à la base qui s'adonne à ces magouilles, car le ministère de tutelle a demandé aux éleveurs, avec la nouvelle loi de stabulation permanente, de garder leur bétail dans leur domaine tout en clôturant. À ce sujet, la radio Inzamba a essayé de contacter par téléphone le responsable de l'agriculture et de l'élevage en province de Makamba, mais sans succès.
Parlons cette fois du domaine éducatif où l'année qui vient de s'écouler a été caractérisée par une détérioration de la qualité des enseignements à tous les niveaux. Analyse du chercheur en éducation, Libera Nivashira Kandi, de nombreux facteurs dont le contexte politique et socio-économique instable sont à l'origine de cette situation. Suivez ses explications.
Premièrement, il faut que le contexte socio-économique et politique soit favorable pour un enseignement de qualité. Est-ce le cas au Burundi? Non. Le secteur de l'éducation est politisé. Le recrutement des enseignants et responsables scolaires se fait sur base des critères politiques ou de la corruption au détriment des compétences. L'on pourrait aussi citer l'exemple de la pauvreté et de la faim qui frappent beaucoup de familles, et cette pauvreté et cette faim ont un impact sur la fréquentation scolaire, notamment les nombreux abandons scolaires s'expliquent en partie par la pauvreté ainsi que les violences dans les écoles et l'insécurité dans le pays. Deuxièmement, la qualité de l'enseignement, c'est aussi des enseignants bien formés, compétents, qualifiés et surtout motivés. Est-ce le cas au Burundi? Non. L'on observe par exemple le tâtonnement dans la formation des enseignants du secondaire, l'université formée des licenciés. On a aussi l'Institut pédagogique, IP, l'Institut pédagogique appliqué et l'École normale supérieure. Donc il y a un tâtonnement dans la formation des enseignants et ces structures de formation, on dirait qu'elles sont en compétition. Troisièmement, l'enseignement de qualité, c'est aussi des infrastructures suffisantes, des équipements et matériels didactiques ou outils d'apprentissage disponibles. Est-ce le cas au Burundi? Non. L'on observe le nombre d'élèves par classe ou d'étudiants par amphithéâtre est pléthorique. L'on observe surtout le manque de bancs et pupitres, pas de livres, pas de produits de laboratoire, pas d'ordinateur, etc. Quatrièmement, l'enseignement de qualité, c'est aussi les méthodes d'enseignement qui sont efficaces. Est-ce le cas au Burundi? Non. Du moment que les enseignants sont mal formés, donc ils n'ont pas les compétences nécessaires pour mettre en place des méthodes d'enseignement qui permettent d'atteindre les objectifs visés par l'enseignement en question.
Libera Nivashirakandi propose des voies de sortie, entre autres la formation des enseignants et la construction d'autres salles de classe partout dans le pays pour espérer l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Burundi. Encore une fois, on l'écoute.
Il faudrait créer des conditions socio-politico-économiques qui permettent d'avoir le maximum de financement ou de fonds internationaux ou extérieurs auxquels le Burundi a droit dans le cadre des politiques de scolarisation universelle. Car les besoins du secteur de l'éducation sont énormes, le Burundi est incapable de les financer sans fonds extérieurs. Deuxième recommandation, il faudrait élaborer une politique cohérente de formation initiale et continue des enseignants, y compris l'enseignement supérieur. Une proposition concrète, c'est de doter chaque province d'un institut de formation des enseignants du primaire et du secondaire, dont la durée de formation serait 5 ans après les humanités générales. C'est-à-dire que si cette politique est lancée en 2022, en 2027, le Burundi aura déjà formé un bon nombre d'enseignants qualifiés et compétents. Pour l'enseignement supérieur universitaire, il nous semble important de négocier des partenariats avec des pays amis pour former des formateurs dans les universités de renommée internationale qui permettraient de mettre sur le marché des enseignants universitaires qualifiés. Il faudrait absolument redessiner la carte scolaire et poursuivre la construction des salles de classe pour réduire le nombre d'écoliers par classe. Ces constructions devraient se faire en mettant en avant la qualité de l'enseignement, c'est-à-dire par exemple doter les meilleures écoles du pays des écoles maternelles et primaires rattachées à ces établissements. Initier des actions d'amélioration des conditions de travail et de motivation des enseignants, notamment en leur fournissant un logement décent, des moyens de déplacement. De façon transparente aussi, permettre aux enseignants d'avoir un contrôle et une vision sur leur carrière.
Dans la suite des souhaits des acteurs de la société civile et des acteurs politiques pour cette nouvelle année, demain, vendredi, nous allons vous faire part du domaine de la santé. Terminons par le secteur de l'électricité qui est défini comme une priorité par le ministère de l'Énergie et des Mines pour que la population burundaise puisse accéder facilement au courant électrique. Pour y arriver, le ministre Wizeye Ibrahim indique que de nouveaux barrages sont en construction ainsi que la réhabilitation des réseaux électriques existants, il a dit ce jeudi dans un point de presse sur les réalisations de ce ministère.
Il y a aussi comme projet construction des centrales hydroélectriques de Djizi Muremure. Le taux d'avancement des travaux des aménagements hydroélectriques de Djizi Muremure est évalué à 39%, tandis que celui de facturation est à 32%. Il y a aussi la construction de la centrale hydroélectrique de Kabou 16, qui vont nous donner 20 mégawatts. Là, le taux d'exécution des travaux de construction de la centrale hydroélectrique est à 71%. La construction de la centrale hydroélectrique de Luzibazi, qui va nous donner 15 mégawatts, les travaux avancent très bien et le taux d'exécution actuel dans l'ensemble de l'aménagement de la centrale Luzibazi arrive à 90,10%. À notre projet, entretenir, réparer les postes haute tension, moyenne tension et les lignes haute tension et moyenne tension ainsi que les raccordements aux clients. Il y a 85% des travaux sont réalisés pour les nouveaux réseaux électriques à moyenne tension et basse tension pour électrifier les localités Kiyang et Buterere. Et 100% du matériel déjà acheté pour réaliser les extensions des réseaux électriques à moyenne tension et basse tension des localités de Bussoro et Karama. 94% du matériel BT, basse tension, est déjà réalisé et 100% du matériel moyenne tension sont déjà utilisés pour réaliser les nouveaux réseaux électriques à moyenne tension et basse tension de la localité de Kibembe et Ruziba.
Fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Nzamba Lati Kakawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.